Voilà, j'aimerais parler ce matin sur Éman. C'est un personnage de l'Ancien Testament qui est peu connu, car nous avons peu d'informations sur ce personnage, mais néanmoins des informations qui vont nous être utiles et qui sont importantes. Dans 1 Chronique, chapitre 16, 6, pardon, verset 31, voici ce que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent des fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, d'entre les fils des Kehathites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Amen. Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Alors on connaît bien Samuel, on arrive à le situer parce que c'est un personnage bien connu dans l'Ancien Testament, un prophète de l'Éternel. Et on peut aussi situer Éman avec deux autres noms. Il est souvent en compagnie de Asaph, un autre chantre dans l'Écriture, et Jedoutoun. Donc Asaph, Éman et Jedoutoun, ce sont trois noms que l'on retrouve régulièrement ensemble. On sait que Éman signifie fidèle. Donc déjà, son nom nous parle de la fidélité, de l'attachement à Dieu, et sa vie est une illustration déjà de la grâce incomparable de Dieu. Que nous dit ce texte que nous avons lu? Premièrement, nous apprenons que Éman, avec Asaph aussi, étaient des chantres de l'Éternel et ils jouaient de la musique dans la maison de Dieu. Alors, ils étaient au service de Dieu, et pourtant, nous allons voir que sa vie n'a pas toujours été facile. Il a été choisi par Dieu, établi par Dieu pour conduire la louange, mais on peut se poser la question, comment fait-il pour chanter, pour louer Dieu avec les situations difficiles qu'il traverse dans la vie? D'après les sociologues, il y a deux grandes sources d'influence qui nous touchent tous. La première, c'est, on pourrait l'appeler l'hérédité, la famille où nous sommes nés. Ça va avoir une grande influence sur notre vie, par exemple les croyances de notre famille, leurs convictions, ce qu'ils vont nous apprendre, les parents, ce qu'ils nous transmettent comme valeurs, par exemple, tout cela va avoir une grande influence sur notre existence. Et puis, une autre grande source d'influence, c'est le contexte dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le quartier où nous habitons. Peut-être on est dans un quartier difficile, peut-être on est dans un quartier aisé. Et ça va aussi avoir des incidences sur notre vie. Celui qui habite un quartier, par exemple, difficile, où il y a de la drogue, de la délinquance, eh bien, il va être quand même dans un milieu plus difficile. Et celui qui est dans un milieu où il est bien loti, avec une maison, avec un jardin, avec une propriété, avec un quartier confortable, eh bien, il va avoir un meilleur environnement. Et donc, spécialistes, sociologues disent que si on arrive à améliorer le contexte, si on arrive à améliorer le cadre de vie, eh bien certainement qu'on arrive à améliorer la destinée d'une personne. Et d'autre part, si on arrivait à améliorer la génétique, si on arrivait à améliorer la famille dans laquelle naît l'individu, on améliorerait aussi ses conditions. Mais là, il y a eu des dérives avec des recherches dans l'ADN et puis la recherche d'une race plus excellente, une race parfaite, et tout cela, nous savons que ce sont des dérives. Et par ailleurs, nous savons que de mettre des gens dans un bon contexte, cela ne suffit pas. Alors, j'aimerais voir le cas de Éman par rapport à ces deux aspects. D'abord, premièrement, son héritage familial. Quel était son héritage familial? Si l'on remonte les générations pour revenir à l'origine des ancêtres d'Éman, on trouvera qu'il est issu de la tribu de Lévi. Lévi, c'est un des 12 fils de Jacob. Donc, on pourrait dire qu'il est dans une lignée bénie. Il est dans la lignée des enfants d'Israël, ceux qui ont formé les tribus. Mais si on regarde de plus près qui était Lévi, c'était un des fils de Jacob, oui, mais il était caractérisé par sa violence et sa cruauté. On a notamment un récit qui nous montre qu'un jour, il a massacré toute une ville pour un forfait qui avait été accompli sur sa sœur Dina. Il a massacré tous les hommes de cette ville. Et par la suite, lorsque Jacob va bénir ses 12 enfants, à chaque enfant, il va attribuer une bénédiction particulière en fonction de l'avenir de cette personne. Et sur Jacob va dire donc à Lévi, « Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. » Ça, c'est pour la tribu de Lévi. Donc, Lévi avait laissé une trace de violence, il avait laissé une trace de colère, et moralité, il n'y aura pas de tribu de Lévi, en tout cas en forme de territoire. Ils seront répartis sur toute la surface d'Israël, mais n'auront pas de terre à eux. Ça, c'est ses antécédents. Un peu, si on avance un petit peu dans l'histoire, on voit un autre de ses ancêtres qui s'appelait Corée. Peut-être avez-vous entendu parler de cet homme, Corée, qui a laissé une marque triste dans l'histoire du peuple d'Israël. C'était un homme qui était croyant et qui, à un moment donné, l'orgueil est venu dans son esprit. Il a rameuté autour de lui, la Bible dit, 250 des hommes les plus puissants d'Israël, et son but était de destituer le sacrificateur en place, c'était Aaron, de prendre sa place et ainsi d'instituer un nouveau culte. Donc, il a fait une sorte de révolte. Et cette révolte est restée marquée dans les esprits comme la révolte de Corée. Corée, donc, rien que le nom de Corée évoque une révolte contre Dieu, une révolte contre Moïse, contre Aaron. C'était pourtant un Lévite, il était dans la tribu des serviteurs de Dieu, mais on ne comprend pas ce qui se passe des fois dans l'esprit de certaines personnes. Ce sont bien des croyants, ils aiment Dieu, mais d'un autre côté, un esprit d'orgueil les anime et ils vont vouloir faire des choses auxquelles ils ne sont pas appelés. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a jugé cette situation, et c'est pourquoi il nous faut prier, frères et sœurs, quand il y a des situations comme celle de Corée, où il y a des sortes d'orgueil, de manifestations, de désir de prendre la place des autres qui se lèvent, eh bien de prier parce que Dieu va juger cette situation. La Bible dit que la terre s'est ouverte en deux et que Corée et les autres qui s'étaient révoltés ont été comme avalés par la terre qui s'est ouverte. C'est un miracle qui s'est produit, mais c'est un miracle de jugement où Dieu a réglé ses comptes avec cette personne qui voulait prendre l'autorité. Mais je note, dans Nombre 26, il est dit ceci, « Les fils de Corée ne moururent pas, si bien que Dieu a permis quand même qu'il y ait une descendance à cet homme qui pourtant avait mal tourné. » Mais là, ça nous parle aussi de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons des ancêtres dans notre famille qui ont fait des choses mauvaises que nous sommes tous condamnés à faire des choses mauvaises ou à vivre dans le mal. Donc, il y a ce verset qui dit que les fils de Corée ne moururent pas. Et Éman, en fait, est un des descendants de ces fils de Corée qui ne moururent pas, qui ont été comme graciés, épargnés, qui ont survécu à ce tremblement de terre, qui n'ont pas été avalés par la terre. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une lignée qui est arrivée jusqu'à cet homme, Éman. Maintenant, on arrive au grand-père d'Éman, un tout petit peu plus proche de lui, qui s'appelait Samuel. Et lui, on le connaît bien, surtout par le texte donc, de 1 Samuel. On a le récit où la maman de Samuel ne pouvait pas avoir d'enfant et elle venait au temple année après année, priant Dieu, et dans le récit de Samuel, on la voit supplier Dieu toute la nuit, chercher Dieu, prier Dieu pour avoir un enfant, de sorte que le sacrificateur en place, Élie, pensait qu'elle était ivre, mais en réalité, elle exprimait sa souffrance et sa douleur de ne pas avoir d'enfant. Et Dieu a entendu sa prière, et par le sacrificateur Élie, elle lui a dit, « L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. » Ça, c'est la réponse à la prière, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Samuel est donc le fruit de la prière. Et quelquefois, on m'appelle pour prier des situations avec des frères, des sœurs, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, ça m'est arrivé de prier, et par la grâce de Dieu, j'ai pu voir ces familles avoir des enfants. Et puis, quelque temps, ils m'ont rappelé, « Pasteur, vous pouvez revenir ?» Parce qu'on n'arrive plus à dormir la nuit et vous pouvez prier pour nous. Alors je leur dis, ben oui. Maintenant, Dieu a exaucé, mais merci Seigneur. Il y a quelques inconvénients, c'est-à-dire qu'il faut se lever la nuit. On est fatigué, pasteur. on n'arrive plus à gérer. Et oui. Et encore, bénissez le Seigneur qu'il n'y a pas eu des jumeaux qui sont arrivés en même temps. Gloire à Dieu. Parce que ça encore, c'est encore une autre affaire. Alors, les prières de sa mère ont été exaucées et Dieu a béni cette famille qui a pu avoir Samuel. Et non seulement Samuel, mais la Bible dit que comme elle a donné Samuel à Dieu pour l'offrir au service du temple, c'est comme si elle avait donné ce que Dieu lui avait donné. Ça, c'est une belle image aussi qui nous parle du don de tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et elle a donné à Dieu Samuel. Eh bien, Dieu l'a béni parce qu'elle a eu des fils et des filles par la suite. Et elle a pu avoir une famille nombreuse. Alors, Samuel a grandi dans le temple. Et contrairement à Élie qui n'entendait plus la voix de Dieu, Samuel était sensible au Saint-Esprit, à Dieu. Et ça, c'est la particularité, c'est la liberté de chacun. Et lui, il était sensible. Et Dieu a parlé au cœur de Samuel, 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 plusieurs fois. Samuel étant enfant, il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Donc à chaque fois, Élie lui disait non. Et il lui dit, parle car ton serviteur écoute. La prochaine fois, tu diras, c'est Dieu qui te parle. Et cet homme, ce jeune homme, Samuel, a grandi dans les voies de Dieu. Il est devenu juge en Israël et prophète, un prophète reconnu. C'est d'ailleurs lui qui a été choisi par Dieu pour oindre le premier roi d'Israël. C'est Samuel qui a été choisi par Dieu pour aller chercher David. Il fallait quelqu'un de sensible à la voix de Dieu quand Samuel hésitait entre Eliab. Parce qu'Ésaïe voulait placer Eliab, le père d'Ésaïe, le père d'Eliab, il voulait placer son aîné Eliab. Mais Samuel a été repris dans son cœur. Non, non, ce n'est pas celui-ci que Dieu a choisi. Et c'est encore Samuel qui a oint David. Vous voyez, Samuel, on le voit donc dans toutes les étapes clés du développement d'Israël. Et je note dans 1 Samuel 8, versets 1 à 3, une défaillance. Une défaillance qui va avoir une incidence maintenant sur Éman, son petit-fils. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier fils né se nommait Joël. Donc c'est 1 Samuel 8, versets 1 à 3. Son premier fils né se nommait Joël. Le second s'appelait Abija. Ils étaient juges à Beersheba et les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité. Ils recevaient des présents et violaient la justice. Quelle tristesse. Nous voyons là un homme de Dieu qui a accompli un grand ministère, qui a fait de grandes et belles choses pour Dieu, mais ses enfants ne suivaient pas ses traces. D'abord, ce n'est pas parce qu'un père a reçu quelque chose de Dieu que les enfants ont reçu la même chose. Chacun reçoit de Dieu des dons différents. Manifestement, les enfants de ce serviteur de Dieu n'avaient pas reçu l'accréditation pour pouvoir servir dans les voies de Dieu, en tout cas comme juge et comme responsable en Israël. Pourquoi ? Bien parce que dans leur cœur, il y avait de la fraude, il y avait l'amour de l'argent, il y avait des racines de toutes sortes de péchés qui n'étaient pas réglés et ils ne pouvaient pas servir Dieu correctement. Alors là, il y a un principe important qu'on note dans l'Écriture, c'est que c'est Dieu qui a établi Samuel comme juge, comme prophète en Israël, mais je remarque que c'est Samuel qui a voulu établir ses fils comme juge. C'est écrit comme ça. Il établit, c'est bien Samuel, c'est pas Dieu, Samuel établit ses propres fils comme juge en Israël. Et ça, ça a été certainement l'erreur de Samuel dans sa vie. Ça aboutit à un échec. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas à l'origine du choix de Joël et d'Abija, les deux enfants de Samuel. Dieu n'est pas à l'origine de ce choix, mais Samuel a pensé que certainement il pourrait servir Dieu. Mais il n'avait pas l'onction, il n'avait pas ce qu'il fallait pour. Alors, ce grand principe, c'est que c'est Dieu qui choisit qui il va introduire dans le service. Et Samuel aurait dû faire comme avec Eliab, en disant, non, non, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci, mais qui a-t-il choisi ? Et il a fallu qu'il arrive jusqu'à David. Il y a eu 7 candidats avant David. Eh bien, s'il avait observé le même principe pour ses propres fils, il ne les aurait pas introduits dans le service de Dieu et ça aurait été une bénédiction. Alors, le bagage héréditaire d'Éman, si on regarde du côté de Lévi, du côté de Corée, du côté de Samuel, on voit qu'il y a des positifs et du négatif. Mais en tout cas, pas mal de difficultés, et surtout avec ses parents finalement biologiques, puisqu'on a dit qu'il ne servait pas le Seigneur, c'est-à-dire Joël, c'était son père, Joël, le fils de Samuel, il ne servait pas dans les voies de Dieu. Et donc il a été élevé, éduqué avec des parents qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Alors voilà un contexte familial quand même difficile. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui naît dans un contexte défavorable ou qui est d'une lignée défavorable? On va voir que pour Dieu, ce n'est pas un problème. Deuxième point, c'est maintenant le contexte du vécu, le contexte social de Éman. Nous avons vu sa lignée, ses ascendants, combien il pouvait avoir des difficultés dans la vie à cause d'eux. Mais son contexte était assez défavorable, puisque étant élevé dans une famille malhonnête, il avait autour de lui des relations de tromperie, un environnement négatif avec des paroles de tromperie, avec de l'hypocrisie, et cela ne pouvait pas l'aider à le structurer dans son esprit et d'être droit pour Dieu. Alors son père, qui avait le titre de juge, puisque c'est Samuel qui l'avait nommé juge, c'était un titre très honorifique en Israël, eh bien il vivait, en fait il faisait le juge devant les gens, mais il vivait comme un païen. Et finalement, cet enfant, en voyant ses parents, en voyant son oncle, eh bien il pouvait se poser des questions, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Mais qu'est-ce que font mes parents? Et puis ses amis pouvaient se moquer de lui en disant, ben voilà, toi tu es le fils de l'hypocrite, toi tu viens au milieu de nous, mais tes parents ne sont pas dans la vérité. Et il pouvait avoir quelques difficultés dans son voisinage à cause de ses propres parents. Alors que nous, parents, nous devons donner un bon modèle à nos enfants, eh bien Joël n'a pas donné un bon modèle à Éman. Il lui a donné un modèle de tromperie. Comment tromper Dieu? Comment comment faire plus de profit avec les choses de Dieu, etc. Donc, imaginez donc cet enfant, lorsque tous les jours il entend ces choses mauvaises, et que cela peut avoir une influence grande sur sa vie. Sans oublier que la faute de Corée est toujours dans les esprits, parce que la Bible dit dans Nombre 16, 38, que c'était inscrit même sur l'autel, avec les brasiers donc de ces gens, ceux qui avaient péché du temps de Corée, au péril de leur vie, et qu'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Donc sur l'autel même, il y avait le souvenir de la faute de Corée. Puisqu'ils ont présenté devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Dieu avait voulu que cette histoire de la révolte de Corée soit comme un mémorial pour se dire plus jamais de révolte contre Dieu. Et cet enfant émane déjà avec l'exemple de son père, mais en plus avec le souvenir de cette révolte de ses ancêtres, eh bien, faisait qu'à chaque fois qu'il passait devant l'autel, il y avait cette culpabilité. Toi aussi, tu es un enfant de Corée, tu es un fils de la révolte, et voilà quelle est ta destinée, tu es perdu, on ne pourra rien faire pour toi. Alors comment Dieu peut-il utiliser un homme dans une famille aussi complexe et avec un environnement social aussi défavorable? Et c'est là que nous nous rendons compte de la grâce infinie de Dieu. Son service, il va l'effectuer parce que Dieu, pour Dieu, ça ne dépend pas de notre famille de naissance, ça ne dépend pas du contexte social dans lequel nous évoluons, ça dépend de la grâce de Dieu qui nous attire à lui et qui nous choisit comme il le veut. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alors Dieu va le qualifier, il va l'appeler un peu comme Samuel, il va le faire sortir de ce bourbier dans lequel il est depuis tant d'années et il va le mettre à part pour lui dans la tribu des Lévites. On l'a lu en introduction, il y a une partie des Lévites qui s'appelait les Kéhatites. Et les Kéhatites avaient une fonction très spéciale en Israël. Ils étaient chargés de porter les ustensiles les plus sacrés, les plus saints, pour les déplacements du tabernacle. Et c'était un service hautement risqué, parce que la Bible dit à deux versets que Dieu pouvait condamner à mort quelqu'un qui ne respectait pas les procédures pour porter ces ustensiles. Il y avait des règles très strictes à observer et c'était un service hautement risqué. Alors, il a fait partie de cette, entre guillemets, de cette élite pour porter les ustensiles, pour être au service de Dieu d'une manière très sérieuse. Et là, il a appris vraiment les voies du Seigneur. Et lorsque, plus tard, Jérusalem a été envahie par des ennemis, encore les Kéatites ont été utilisés par Dieu d'une manière puissante. Et lui faisait partie de cette branche des Lévites qui s'appelait les Kéatites. Alors qu'Israël, plutôt c'était Juda, puisque Jérusalem c'est au sud, c'était le peuple du Juda qui était envahi par des ennemis nombreux. Hein, il y avait une division, il y avait Juda au sud, Israël au nord. Juda était envahi par des ennemis nombreux et à l'intérieur de Jérusalem, il y avait ces Lévites, ces Kéatites. Et à ce moment-là, le roi Josaphat, inspiré par le Saint-Esprit, parce qu'on ne va pas faire ça comme ça, il a mis les chantres, les musiciens, dont faisait partie Éman, le Kéatite, donc cette race spéciale, il les a mis à la tête de son armée pour aller combattre l'ennemi. Alors, il n'y a aucune armée au monde qui ferait une chose aussi insensée, mais néanmoins, c'est par le moyen de la louange, quand ils ont commencé à chanter des cantiques, ils ont loué de tout leur cœur, il y avait l'armée qui était derrière eux. À ce moment-là, Dieu a tendu une embuscade. Alors, je l'ai noté, c'est dans 2 Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, ça, ce sont Éman et les musiciens, les Kéatites, les Lévites, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Voilà une victoire qui est remportée par la puissance de Dieu, un miracle. Ils ont simplement fait confiance à Dieu, ils ont simplement loué le Seigneur et ils ont vu la main de Dieu agir. Frères et sœurs, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes acculés, nous avons recours à des méthodes qui ne sont pas humaines. Nous avons recours à la prière, nous avons recours à la louange, nous avons recours à la méditation de la parole de Dieu. Et c'est là que nous trouvons les armes nécessaires, les armes puissantes. La Bible dit que l'épée même, la parole c'est comme une épée, plus puissante qu'une épée à deux tranchants. C'est une arme puissante que nous avons avec nous. Bien souvent nous l'ignorons, mais cette parole est puissante. Alors frères et sœurs, quand il y a des difficultés, des problèmes sérieux qui nous arrivent, eh bien nous avons recours à la parole et nous pouvons proclamer la parole de tout notre cœur en croyant bien sûr. Il ne s'agit pas de dire des versets d'une manière magique, il faut y associer la foi bien sûr. Si nous croyons dans notre cœur en proclamant la vérité, eh bien c'est une arme efficace, c'est une arme puissante. Un jour David a voulu faire ramener l'arche dans Jérusalem. Et la première fois qu'il a ramené l'arche, ça a été une catastrophe. Il n'avait pas utilisé les bons procédés, il avait mis un char neuf avec des bœufs. Et à un moment donné, un homme a voulu protéger l'arche qui était sur le point de tomber et Dieu l'a sanctionné, il est mort sur le champ. Alors David, lorsqu'il a voulu faire à nouveau revenir l'arche, il a vraiment consulté la parole. Et il s'est rendu compte que c'était les Lévites et particulièrement les fameux Kéatites dont on parle depuis tout à l'heure, qui est une partie des Lévites, mais qui était chargée du transport de tout ce qui concerne l'arche, de tout ce qui concerne le tabernacle et donc l'arche et les ustensiles. Et cette fois-ci, après avoir consulté Dieu, il a envoyé cette équipe, dont Éman faisait partie, pour le transport de l'arche. Et là, le transport s'est effectué avec succès. C'est dans 1 Chronique chapitre 15, verset 19. Éman était là et il faisait partie des musiciens qui accompagnaient le processus du déplacement de l'arche jusqu'à Jérusalem. Les chantres, donc 1 Chronique 15, 19, les chantres Éman, Asaph et Ethan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir pendant tout le processus du déplacement de l'arche. Il n'y a eu aucun incident, ça s'est fait au milieu des fêtes et des réjouissances. David lui-même en a profité pour danser devant l'Éternel. C'est un moment de joie, un moment extraordinaire. On voit la gloire de Dieu parce que les choses ont été faites selon le Seigneur. Et un peu plus loin, dans le 1 Chronique 16, verset 41, on retrouve encore Éman, toujours auprès de l'arche. Auprès d'eux étaient Éman et Jedutun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel. Alors nous voyons qu'ils faisaient partie de ceux qui ont été choisis. Le roi avait choisi des personnes précises pour s'occuper de tout ce qui concerne l'Arche de l'Alliance. car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Éman et Jedutun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jedutun étaient portiers. Alors on se rend compte que Éman a eu une fonction importante lors du transport de l'arche jusqu'à Jérusalem et puis autour des festivités et autour du temple, il avait cette fonction de musicien. Et Éman était aussi là le jour de la dédicace du temple. Lorsqu'ils ont réussi à bâtir le temple et qu'ils ont convoqué tous les sacrificateurs, on retrouve Asaph, Éman et Jedutun, les trois grands dirigeants de louanges. Et c'est eux qui ont conduit la louange pendant la dédicace du temple. La Bible dit qu'ils étaient venus en vêtements de byssus, des vêtements de fin, de vêtements de grande qualité pour honorer Dieu. Et il y avait 120 sacrificateurs qui sonnaient de la trompette. Alors j'ai relevé le verset 13, donc dans 2 Chroniques 5, 13. « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, et on voit l'importance ici, d'être unis dans le même esprit pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Il fit retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Cette nuée, c'est la gloire de Dieu qui a rempli le temple. La Bible dit que c'était tellement palpable que même ceux qui étaient dans le temple ne pouvaient pas rester à cause de la présence de Dieu qui était là. Et ils sont sortis du temple. Et Éman faisait partie de cette équipe qui était présente ce jour-là et qui ont conduit à la louange, à l'adoration. Donc on voit qu'il avait un service très élevé, des fonctions très élevées, alors qu'il est parti d'un contexte familial difficile, son environnement était difficile, mais ça n'empêche pas pour Dieu d'utiliser cette personne comme il le veut. Je termine avec Éman avec une dernière pensée. C'est qu'on le retrouve à une très haute place à la fin. Il était voyant du roi. Il faisait office de conseiller personnel du roi dans 1 Chronique 25.5. Éman, qui était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu, pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. On peut se poser la question, combien de personnes ont eu le titre de voyant du roi, ou si vous voulez, de conseiller personnel du roi. Il n'y en a eu que 3 dans tout l'Ancien Testament qui ont eu ce titre, dont Éman fait partie. Le deuxième, c'est Jedutun, et le troisième, c'est un prophète qui s'appelait Gad. Seulement 3 personnes ont pu accéder à ce haut niveau de responsabilité, alors qu'il était parti de bien bas. Eh bien, Dieu a permis qu'il gravisse les échelons, non pas de son propre désir ou de sa volonté, on va dire, de vouloir avoir une grande place, ce n'était pas dans son cœur. Mais néanmoins, Dieu a vu ses dispositions, il a vu son humilité, il l'a placé à des moments clés, des moments importants, le retour de l'arche, la dédicace du temple, c'était des moments importants pour l'histoire du peuple d'Israël. Et puis, il avait ce rôle d'expliquer lui-même les paroles de Dieu au roi. C'est un rôle éminemment important qu'il avait acquis, et ça c'est Dieu qui l'a béni. On voit que Dieu a béni cet homme qui est parti de rien. Il lui a donné une famille nombreuse avec 14 fils et 3 filles. Donc la descendance encore s'est multipliée, ça a été encore un grand sujet de joie, et on peut penser qu'il a été vraiment un père aimant pour tous ses enfants. Que conclure ? À partir de la vie de cet homme, la première pensée que j'ai, c'est que pour Dieu, tout est possible et qu'il peut prendre qui il veut et en faire ce qu'il veut. Alors que nous pourrions croire que cette personne n'a pas les qualités nécessaires, eh bien, peut-être vous dites, je ne suis pas né dans la bonne famille, je ne suis pas dans le meilleur contexte parce que mon contexte est défavorable, je ne suis pas dans le bon endroit. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème de nous utiliser même dans ces contextes défavorables. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre paramètre qui nous échappe, un paramètre qui est divin, un paramètre qui est divin, qui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient nous chercher dans les endroits les plus bas tombés. La grâce de Dieu va permettre qu'un homme ou une femme puisse accéder à des positions et à des services bien plus élevés. Pourquoi ? Parce que la grâce est plus forte que l'hérédité. La grâce, elle est plus forte que notre contexte, notre environnement. La grâce, elle est surabondante. La Bible dit que là où le péché a abondé, même la grâce a surabondé. Il y a tellement de possibilités, tellement de bénédictions dans la présence de Dieu. La grâce même dépasse nos échecs, nos déceptions, nos doutes, nos craintes. Peut-être ce jeune Eman, lorsqu'il voyait ses parents, il disait « Mais moi, je n'arriverai à rien dans la vie, avec une famille pareille, je n'en sortirai jamais. » Eh bien, rien n'empêche Dieu d'agir, même dans des contextes aussi défavorables. La grâce dépasse, elle est bien supérieure à tout ce que l'on peut connaître. Rappelez-vous cette parole de Paul, qui était bien éloigné du Seigneur. Il nous a laissé cette parole « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce, regardez comment la grâce a tiré Paul de sa religion pour faire de lui d'abord un enfant de Dieu, puis un serviteur, puis un apôtre dans sa maison, alors qu'il était un persécuteur de l'Église. Je regardais il y a quelque temps un témoignage qui m'a beaucoup touché, c'est celui de Nick Vujicki, qui est né sans bras et sans jambes. Il donne son témoignage de la manière dont il a rencontré le Seigneur et qu'il est utilisé par Dieu. C'est un témoignage bouleversant parce que quand il est né dans une famille chrétienne et quand il est né, son père qui était à l'accouchement, il a failli tomber par terre quand il a vu que l'épaule sortait, il n'y avait pas de bras. Le bébé sortait comme ça. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de bras, il est sorti à l'extérieur, il allait tomber dans les pommes. Et lorsque le médecin est arrivé, il lui dit « Mais mon enfant, il n'a pas de bras droit. Il n'a pas de bras droit. » Et le médecin qui lui dit « Mais nous sommes désolés, votre enfant n'a ni bras ni jambes. » Ça a été vraiment un coup terrible pour cette famille. Un enfant sans bras et sans jambes. Comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? Alors, ils ont eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve. C'était des croyants. Même l'Église était dans l'incompréhension. Comment peut-on comprendre que des chrétiens arrivent à avoir une naissance d'un enfant sans bras et sans jambes? Et ça a été très dur, même pour la mère, parce que c'était son enfant. Alors elle l'aimait, mais en même temps, elle a eu beaucoup de mal à accepter, et on peut comprendre. Elle a eu beaucoup de mal à l'allaiter, à l'entourer, à lui donner tout ce qu'il faut au début, parce qu'il fallait surmonter cette difficulté quand même importante, un enfant sans bras et sans jambes. Alors, cet enfant a grandi et par la grâce de Dieu, il s'est bien développé, il a bien évolué. Mais néanmoins, il y avait des questionnements dans son esprit. Il raconte qu'il demandait à Dieu, mais pourquoi, ô Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as privé de bras et de jambes? Et ça, c'était quelque chose qui était incompréhensible. Et même, il raconte qu'à l'âge de 8 ans, il a voulu mettre fin à ses jours, parce qu'il n'en pouvait plus de cette différence insupportable. Et il a demandé à ses parents qu'il voulait prendre un bain. Et il en a profité pour se retourner, pour essayer de se noyer, pour supprimer ses jours. Et il n'a pas réussi parce qu'en même temps, il était rattrapé par la pensée de l'amour de ses parents qui étaient là pour lui. Et tout le mal qu'il allait faire avec ce geste désespéré, et il a été encore gardé. Ce qui a été déterminant dans sa vie, c'est un texte de l'Évangile de Jean au chapitre 9. Où il est dit que Jésus, entrant dans un village, il y avait là un homme qui était aveugle de naissance. Et les gens ont posé la question, mais s'il est aveugle de naissance, est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui qui a péché? Et Jésus a répondu, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Et ce verset extraordinaire a touché le cœur de cet homme. Nick, maintenant, il devait avoir 15 ans environ. Ça l'a tellement bouleversé qu'il a accepté ce jour-là Christ comme son sauveur et il a compris que Dieu allait pouvoir l'utiliser, malgré qu'il n'ait pas de jambes et qu'il n'ait pas de bras, qu'il allait pouvoir manifester les œuvres que Dieu a prévues d'avance dans sa vie. Et à partir de là, son optique a changé. Il a compris ceci, ça ne sert à rien d'être complet à l'extérieur quand on est brisé à l'intérieur. Il dit, j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. Alors à partir de là, il dit que Dieu l'a utilisé à parler dans le monde entier, dans 24 pays, à plus de 3 millions de personnes, il a parlé du Seigneur, et il a vu plus de 200 000 personnes venir à Christ. C'est vraiment un miracle de voir comment une personne dans une situation aussi, on va dire, impossible, difficile, sans espoir, sans avenir, peut être un instrument de Dieu d'une puissance extraordinaire. Ça, c'est le miracle de Dieu. Comme Paul l'exprime, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. À un moment donné, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris que c'est la puissance de Dieu qui peut se développer dans sa faiblesse, comme pour cet homme, Nick, qui a été un instrument, qui est toujours un instrument puissant entre les mains de Dieu. On va prier un instant.